téléspectateurs, vous.
J'ai entendu ça aux infos.
Twitter.
Les réseaux sociaux. Il est fait faire discuter notre enfant. Ouais.
Il est 9h40 sur France Inter. Merci d'ouvrir bien grand votre antenne à l'instant.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Pénélope Fillon, raideur et malaise profond devant les caméras. Femme devenue malgré elle un personnage clé de la campagne présidentielle dont la personnalité et aussi la réalité, l'intimité du couple qu'elle forme avec son mari nous ont tous interpellés au gré d'une affaire surmédiatisée. Pénélope à l'ombre et retournée, du moins tant que les juges n'ont pas statué. Mais une femme journaliste a décidé d'enquêter. Elle en a fait un livre. Elle est mon invitée. Bonjour Sylvie Baumel.
Bonjour.
Pénélope est parue chez J.C. Lattès. Pénélope, c'est le nom, c'est le titre que vous avez donné à votre livre. Livre qui pose beaucoup de questions à mon avis. D'abord sur la médiatisation forcée d'une femme qui a fait de la discrétion une obsession. Mais aussi sur le mélange des genres que vous pratiquez. Tantôt journaliste, recoupant scrupuleusement sur le terrain. Tantôt femme qui digresse sur une autre femme.
L'Instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Alors pour commencer, Tristan Mendès France est avec nous. Salut Tristan.
Bonjour à tous.
Tout va bien ?
Oui.
Oui. Alors c'est la polémique du moment aux États-Unis et vous nous en faites part. Fallait-il inviter ou non le pape du conspirationnisme Alex Jones en prime time sur la chaîne phare NBC News ? On vous fait écouter ce que ça a donné.
First tonight, our report on the incendiary radio host Alex Jones. For years, Jones has been spreading conspiracy theories, claiming, for instance, that elements of the U.S. government allowed the 9/11 attacks to happen and that the horrific Sandy Hook massacre was a hoax.
Voilà, tous les ingrédients d'une bonne controverse sont ici réunis. On vous traduit pas le son, mais vous entendez Megyn Kelly, la journaliste star. Vous allez nous raconter qui c'est, introduire son interview qui a fait grande polémique, Tristan.
Oui, alors d'un côté, on a effectivement cette journaliste assez provoque et rentre dedans, Megyn Kelly, qui est un transfert, je le rappelle, de la très très conservatrice chaîne Fox News et qui, elle seule, attire avec sa nouvelle émission Sunday Night with Megyn Kelly jusqu'à 6 millions de spectateurs. Et de l'autre, on a Alex Jones, qu'on ne présente presque plus, hein, un conspirationniste totalement exalté à la tête d'un empire médiatique en ligne qui est une machine à propager les théories conspirationnistes extrêmes les plus dingues.
Les plus dingues. Et là, dans le son, on entendait Megyn Kelly hein, parler de Sandy Hook. On peut peut-être juste rappeler, Tristan, ce que c'était Sandy Hook. C'est une tuerie très récente aux États-Unis.
Oui, c'est une tuerie où il y a une vingtaine de gosses qui ont été tués par un malade qui est rentré dans une école primaire et qui a tué en gros une vingtaine d'enfants.
Voilà, hein, tuerie sur laquelle les rumeurs les plus dingues, comme vous dites, ont été échafaudées. Alors Megyn Kelly a essayé justement de déconstruire hein, le discours de l'homme le plus paranoïaque d'Amérique. C'est le magazine Rolling Stones qui le qualifie ainsi. Mais l'exercice ne semble pas avoir convaincu tout le monde.
Oui, pour plusieurs raisons. D'abord, Megyn Kelly a reçu Alex Jones après Vladimir Poutine, hein, comme si les deux jouaient dans la même catégorie, ce qui donnait quand même une importance symbolique démesurée à Alex Jones. Ensuite, elle a permis à Jones de chasser sur de nouvelles terres, de s'adresser à un auditoire télévisuel qui n'est pas habituellement le sien. Je rappelle que Jones est d'abord une star du web. Alors, juste quelques chiffres. Il a presque 3 millions de personnes qui le suivent sur Facebook. Ses vidéos ont été vues 1,3 milliard de fois sur YouTube. Enfin, Alex Jones est un expert de la communication en ligne, pas Megyn Kelly. Il a su capitaliser sur cet épisode. Sur YouTube, il a publié il y a à peine quelques jours une vidéo qui parle évidemment de son passage télé et qui a déjà été vue 1,7 million de fois. Et des vidéos comme ça, il en publie 10 par jour. Alors aujourd'hui, il hurle, il meugle qu'il a étrillé les médias dits officiels et je pense qu'il a peut-être raison.
Voilà, d'autant que des recherches universitaires hein, semblent indiquer que relayer des fausses informations en réalité n'est jamais anodin, Tristan.
Bah oui, la répétition d'une fausse information, ça le confère toujours forcément et un pouvoir de vérité. Ça fait plus de 40 ans maintenant que des chercheurs de l'université de Toronto ont qualifié le phénomène de, je cite, « effet de vérité illusoire ». Ils expliquent en gros qu'il y a un rapport significatif entre la fréquence d'exposition d'un échantillon d'individus à de fausses informations et l'impression qu'ils ont que ces mêmes informations sont vraies ou plausibles.
Voilà, et ça peut avoir hein, parfois hein, des conséquences très inquiétantes. Hein.
Bah oui, mais le problème, c'est pas tant que tous ceux qui sont exposés à ces fausses informations deviennent soudainement tous des conspirationnistes, mais que la médiatisation partant de ces théories totalement bidons augmente statistiquement les chances de tomber dans l'oreille d'un personnage psychologiquement, je sais pas, fragile ou déviant. Et malheureusement, les exemples prolifèrent. Alors, l'historien Pierre Vidal-Naquet avait déclaré à propos des négationnistes, qui sont tous des conspirationnistes, qu'on peut discuter des négationnistes, mais qu'on ne discute pas avec les négationnistes. Et ben aujourd'hui, je crois que les journalistes doivent se trancher la question.
Merci Tristan. Et dire qu'il y a moins de 20 ans, on se posait la question, faut-il recevoir à la télé en prime time Jean-Marie Le Pen, leader d'extrême droite, et qu'aujourd'hui la question s'est déplacée, c'est-à-dire faut-il recevoir à la télé les tenants des théories du complot, faut-il déconstruire leur discours, mais c'est aussi prendre le risque de les exposer. Merci Tristan, à bientôt.
L'instant M avec Sonia De Villers.
Sylvie Baumel, j'ai donc entre les mains ce livre qui est sorti hier chez J.C. Lattès, fruit d'une enquête au pas de course, quoique vous avez passé 2 mois jour et nuit, dites-vous, avec Pénélope Fillon, vous avez même fini par vous attacher à elle. Vous jurez que vous n'excluez pas l'hypothèse suivante, qu'une énorme injustice leur ait été faite, vous partez sans parti pris.
Oui, vraiment, vraiment. Quand je pars, c'est absolument sans aucun parti pris.
Ceci dit, la vidéo vieille de 10 ans où elle explique ne jamais avoir travaillé a fait se retourner l'opinion et peut-être qu'à ce moment-là, ça a déclenché chez la journaliste que vous êtes l'envie de creuser.
Attention, écoutez bien la suite. Pénélope Fillon va répondre à la question que tout le monde se pose.
Je n'ai jamais été son assistante ou quoi que ce soit de ce genre. Je ne m'occupe pas non plus de sa communication.
Pour ne rien trahir de ses propos sans équivoque, les voici, cette fois en version originale.
Voilà, interview du Sunday Times diffusé par envoyé spécial pile au bon moment. S'il y a un méchant dans l'histoire à ce moment-là, c'est le mari, c'est ce que vous racontez. Pénélope Fillon devient une femme manipulée, ça vous donne l'envie de creuser. Et justement, ce livre, c'est vraiment le récit de cette femme toute simple qui n'aspire qu'à la vie des gens simples que vous allez petit à petit déconstruire. Et c'est ça qui est intéressant. Vous êtes journaliste, Sylvie Baumel, et en même temps, vous commencez en préambule par dire que ce travail de journaliste, là où il vous intéresse et vous accroche par-dessus tout, c'est raconter la vie des gens, des hommes et des femmes, de plus en plus celle des femmes. Vous vous rendez compte en vieillissant et en avançant dans votre carrière. Alors même que vous êtes vous-même une femme et que vous avez le même âge que Pénélope
Fillon.
Oui,
c'est quelque chose que je découvre tout à fait au début de l'enquête. Voilà, c'est évidemment pas une information très difficile à retrouver. Pénélope a 2 jours de moins que moi. Au début, c'est juste une coïncidence amusante. Et puis, au fil de l'enquête, je vais découvrir qu'à mon sens, c'est quand même quelque chose d'important dans le sens où Pénélope a un rapport au travail qui tout de suite est quand même assez compliqué. Je dis que je l'interprète comme un rapport des femmes de ces années-là, des filles du baby boom qui vont beaucoup hésiter entre je travaille pas, j'élève mes enfants, je suis une Wonder Woman.
C'est vraiment un livre sur votre génération vous allez faire. Et c'est là où vous vous permettez de digresser, de sortir de l'enquête. Vous y mêlez votre histoire à vous, votre rapport au travail, votre salaire, vous mettez les conseils que vous donneriez à votre fille si votre fille vous disait « Maman, j'arrête de travailler pour avoir des enfants ». Peut-être que c'est à ce moment-là où vous n'êtes plus tout à fait journaliste.
C'est vrai, je suis toujours d'ailleurs journaliste, j'étais journaliste depuis 30 ans, je me suis toujours, j'ai essayé de m'astreindre aux règles du journalisme, effectivement, le journaliste n'apparaît pas, etc. Et là, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais depuis quelques temps. En fait, il me semble que pour les journalistes, il manque 2 choses pour aller vraiment au bout des choses. Aujourd'hui, dans des affaires comme celle-ci, il manque du temps. Ça, oui. C'est effectivement la grande différence avec le moment où j'ai commencé à travailler, où on pouvait travailler pendant des semaines sur une enquête. Donc là, je l'ai pris. Même s'il est court, je l'ai pris. Je suis restée une semaine au pays de Pénélope, au pays de Galles, une semaine dans la Sarthe, etc. Et la deuxième chose qui manque quelquefois, c'est que et c'est très bien, le journaliste s'arrête à ce qu'il sait. Et puis là, après, quand il ne sait pas, il ne le dit pas qu'il ne sait pas. Il raconte ce qu'il sait. Et moi, j'ai voulu aller plus loin.
Alors justement, après Matignon, vous parlez d'un Matignon blues pour les Fillon. Madame Fillon va reprendre ses études. Et là, je vous cite Sylvie Baumel. Si elle était plus jeune, s'il n'y avait plus d'enfants à la maison, si François la laissait partir sans histoire, si elle avait eu de l'argent à elle, si elle était sûre que l'amour dure toujours, peut-être aurait-elle osé. Mais là, c'est même pas ce que vous savez ou ce que vous ne savez pas. C'est pure supputation. On est quasiment dans le roman.
On est aux confins. C'est, oui. c'est vraiment, par exemple, c'est pas complètement inventé parce que j'ai quand même rencontré pas mal de gens. Alors évidemment, ses proches m'ont pas accueilli. Mais enfin, j'ai rencontré pas mal de gens dans la Sarthe. Au Pays de Galles aussi, mais c'est plus des gens qu'elle connaissait dans son enfance. Donc voilà, donc c'est pas inventé. Après, oui, il y a un peu de supputation. Ce que j'essaye, en tout cas, c'est quand même d'avoir une certaine honnêteté par rapport au lecteur. Je crois qu'à chaque fois que je parle là-dedans,
il est
clair pour le lecteur que je
suppute.
Voilà,
je suppute. Je précise que Pénélope Fillon n'a pas souhaité vous rencontrer ni s'exprimer et que vous le dites d'emblée, vous respectez tout à fait ce choix et son silence. François Fillon, sur le canapé de Karine Lemarchand, juste avant les primaires.
Les élus de Sablé-sur-Sarthe sont venus me chercher en me disant « il faut vous présenter aux élections ».
Vous aviez quel âge ?
J'avais 26 ans. J'ai interrogé Pénélope pour savoir si...
Votre épouse ? Vous lui demandez toujours son avis ?
Avant d'entraîner quelqu'un dans une vie pareille, il faut mieux lui demander son avis quand même. Hein. Sinon, voilà. Puis après, ça permet de lui dire quand elle n'est pas contente...
Tu m'as dit oui.
Voilà.
Ah, c'est une très bonne technique.
Bah oui.
J'ai retenu deux axes, Sylvie Baumel, à ce portrait très, très fouillé que vous proposez de Pénélope Fillon. Le premier, c'est la lente mais profonde transformation que vous restituez d'une femme attachée, très sincèrement attachée à la vie simple, mais qui petit à petit a fini par perdre le sens des réalités. Et là, vous vous remontez dès son enfance, hein, bien sûr, mais voilà, vous décrivez vraiment cette femme qui sera l'épouse du plus jeune député maire d'un pays, qui découvre toute la violence de la politique locale, qui ne s'attache qu'à une chose, c'est se cacher et rester en bon terme avec les gens qui l'entourent dans sa circonscription.
Ah oui, c'est vraiment quelqu'un qui a la discrétion chevillée au corps, qui même au-delà de la discrétion, de la timidité, qui n'aime pas tant que ça rencontrer des gens. C'est une femme qui adore les chevaux, c'est ses meilleures amies. Et puis voilà, et puis qui effectivement va perdre progressivement sans réalité parce que effectivement dès qu'elle l'épouse l'année d'après il est député et après la vie va couler comme ça. Il y a une phrase très forte, peut-être c'est la phrase la plus forte que je trouve dans l'interview de Kim Wilshire dont on parlait tout à l'heure.
Le Sunday Times, été accordé donc voilà. À cette journaliste anglaise lendemain de l'arrivée des Fillon à Matignon.
Cette vidéo elle est incroyable. Pas tant pour la phrase qu'on a citée, je suis pas son assistante parce que moi j'ai pas fait un bouquin sur le problème juridique uniquement, mais quand elle dit moi je suis le mouvement, je suis quelqu'un qui suit le mouvement. Et ben voilà, elle a suivi le mouvement avec tous les bonheurs et le dévouement que ça représente, mais aussi avec tous les dangers. Et voilà, elle a suivi François Fillon dans tous ses...
Voilà, donc il y a eu l'achat du manoir de Bossé, vous le dites, acmé social pour lui. Lieu idéal pour se cacher pour elle, en même temps faute politique majeure, ça les poursuivra, ce manoir. Et puis, vous montrez très bien comment finalement son obsession de mener la vie des gens normaux va s'amenuiser parce que petit à petit elle le suit à Paris, elle va s'installer dans le 7e arrondissement et vous racontez très bien ce contact avec la très grande bourgeoisie dans lequel elle évolue comme un poisson dans l'eau et où petit à petit les privilèges des happy few fait qu'on ne se rend absolument plus compte.
Absolument. Et je crois qu'elle fait une erreur, mais cela dit, nous aussi, journalistes, on peut la faire, hein, c'est de croire qu'en étant gentil, en fréquentant les gens, en leur disant ce que je raconte, elle adore aller sur le marché de Sablé avec ses bottes en caoutchouc, en étant extrêmement simple, eh bien, on connaît la vie des vrais gens. Et non, on la connaît pas pour ça. C'est pas non plus quelqu'un qui s'est beaucoup engagé, elle est extrêmement gentille, mais enfin, elle a jamais été jusqu'à s'engager réellement dans le bénévolat. Et quand elle dit qu'elle était auprès de François, elle justifie au juge une partie de son salaire en disant « j'étais là pour l'aider à comprendre la vie des vrais gens ». Non, je crois qu'elle ne comprenait plus du tout la vie des vrais gens. Elle ne comprenait pas dans le 7e, elle ne comprenait pas la vie des vrais gens, je ne crois pas.
Et le deuxième axe qu'on retient de cette longue et violente trajectoire, c'est vraiment la cruauté de cette médiatisation forcée, de cette médiatisation subie. On revient à ce meeting qui est resté dans toutes les mémoires.
Devant 15 000 témoins, je veux dire à Pénélope que je l'aime. Et que je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont choisi de nous jeter au loup.
Alors, il y a quelque chose là qui est quasiment névrotique chez Pénélope Filon dans le portrait que vous en faites. C'est-à-dire, c'est de la discrétion jusqu'à l'obsession. Vous dites même sur les photos, elle n'imprime pas la pellicule.
Oui, oui, on me l'a dit plusieurs fois, je cite plusieurs anecdotes, mais une qui m'a vraiment marquée, c'est comment effectivement ils partent en bateau avec des copains et François Fillon, qui est déjà fanatique de photographie, mitraille toute la journée dans le golfe du Morbihan. Et finalement, quand on développe les photos, on la voit pas. Et ça arrivait à beaucoup de meetings. Mais elle racontait aussi, elle se cache derrière un garde du corps. Même quand on les voit arriver, c'est très fascinant. On regarde les photos du passage de pouvoir entre les Villepin et eux à Matignon, où finalement elle accepte d'aller parce que Marie-Laure de Villepin veut absolument y être pour montrer sa jolie veste. Et on les voit arriver à pied de leur domicile à Matignon. Et déjà, elle est derrière le dos d'un garde du corps.
Ça, c'est quelqu'un qui ne fera aucune concession à la médiatisation. Vous racontez combien ça lui a coûté chaque photo dans Paris Match pour le storytelling des Fillon. Mais son apparence, elle n'a rien changé justement à cet impératif de communication.
Oui, c'est ce que j'aime bien chez elle aussi, c'est ce côté. Parce que c'est quand même une grande originale à la fois. Elle n'est pas que... C'est aussi ça qui m'a motivée, ce côté. On la faisait passer pour une victime, soumise, etc. Elle n'est pas que ça. Elle est aussi une Anglaise hyper originale. Je ne me teins pas les cheveux. Tout Paris le fait, je m'en fiche. Je raconte aussi comment...
Balance sur les Français comme personne. Voilà.
Elle s'est jamais faite à l'esprit français. Je raconte comment à Matignon, un jour, elle invite tous les conjoints des membres du gouvernement, hommes ou femmes, plus de femmes, mais les conjoints. Et au lieu de faire un plan de table habituel que le suggère le service de Matignon, elle fait un truc à l'anglaise, c'est-à-dire qu'elle fait tirer aux invités. Alors là, on a là quand même Patrick Ollier, des jeux de cartes, des cartes à jouer qui vont déterminer leur plan de table.
Et ça provoque un tollé.
Beaucoup. Alors non, à ce déjeuner-là, ça va. C'est quand les membres du cabinet s'en plaît pas. Bon voilà, c'est aussi ça.
Alors justement, c'est toute la richesse et en même temps l'ambiguïté de votre livre, Sylvie Baumel. C'est-à-dire que d'un côté, vous recoupez chaque feuille de salaire, chaque réalité de ce qu'elle a accompli, chaque tâche rémunérée. Vous montrez comme ça ne colle jamais, jamais, jamais du début à la fin de cette histoire. D'un autre côté, par exemple, moi j'ai été extrêmement surprise de retrouver dans votre livre la façon dont vous relatez la rumeur d'une relation homosexuelle entre François Fillon et son mentor Joël Leteul au Mans, rumeur dites-vous qui a couru depuis la préfecture du Mans jusqu'au couloir de l'Assemblée nationale. Pourquoi relater ces rumeurs? Vous n'en avez, vous, ni la preuve dans un sens ou dans l'autre. Pourquoi alors, vous faire sur chambre d'écho?
Alors,
d'abord,
ce point-là, parce que lui-même en a parlé. Mm-hmm. Donc là, franchement, je me sens assez libre. Il l'a explicité. Et puis quand même, c'était important dans mon histoire pour expliquer l'ascension météorique. Parce que ça fait partie de l'histoire de François Fillon. Député, plus jeune député de France, plus jeune... Enfin, il était plus jeune plein de choses de France, bien avant Macron. Parce que Joël Leteul en avait fait son poulain. Et c'était quand même quelque chose d'extrêmement consistant dans la Sarthe, cette histoire. Et puis Joël Leteul est mort prématurément à 50 ans d'une crise cardiaque, mais il avait déjà dit à tout le monde qu'il voulait que ce soit François Fillon qui lui succède comme député, etc. Donc ça faisait quand même partie de mon histoire, réellement.
Voilà. Cette supputation d'homosexualité, de relations homosexuelles.
Oui, non, mais je raconte aussi que à Paris, on considère que tout le monde est homosexuel et que je n'y crois pas.
Mais
je
justement,
dis,
vous le dites, dis. Vous dites dans les dîners en ville, s'il fallait écouter tout le monde, le monde serait échangiste ou homosexuel. Je n'y crois pas. Et pourtant, vous en faites des pages entières. De la même manière que vous relatez la rumeur d'une relation extra-conjugale entre François Fillon et son attaché de presse dont vous donnez le nom. Mmh. Et vous dites bien, les photos qui ont été publiées finalement dans Closer, elle raconte ce que tout Paris, soi-disant, sait, mais ne montre rien. Vous avez vu autre chose, Sylvie Baumel, pour vous permettre de raconter
non,
ça?
Non, j'ai pas vu autre chose, mais je sais ce que je sais ce que je sais. Et ça me paraissait important pour l'histoire. Et puis aussi, mais là, ça c'est une vieille histoire. Moi, j'ai travaillé longtemps à Capital. On a toujours considéré que notre premier client c'était le lecteur et qu'il avait autant le droit que d'autres de savoir ce
que les Happy Few.
Oui, absolument.
Que les Happy Few.
Je le pense profondément.
Merci beaucoup, Sylvie Baumel. Pénélope vient de paraître donc chez JC Lattès. C'est la fin de l'émission.